Jeudi 18 novembre 2021, il est midi et vous écoutez le magazine de Canal Sud. Salut à toutes et à tous, vous êtes bien sur les ondes 92.2 de Canal Sud et on est ensemble jusqu'à 14h pour ce magazine d'actualité. Aujourd'hui, on est en compagnie de Bernard, de Latinodoc. Salut Bernard.
Bonjour à toutes et à tous.
On va te retrouver juste après en compagnie d'une autre camarade qui organise avec toi ce festival de films documentaires sur l'actualité politique et sociale d'Amérique latine et des Caraïbes, si je ne me trompe pas.
Tu as tout à fait raison.
Mais avant ça, du coup, on va commencer un petit peu à parler de l'agenda et ça tombe bien puisque ce soir, donc jeudi 18 novembre à 20h30, au cinéma L'ABC au métro Jeanne d'Arc, il y a un film qui s'appelle en espagnol « Déjame ser parte de tu locura », traduction en français « Laisse-moi partager ta folie ». Le réalisateur s'appelle Juan Guzmán, c'est un film de 2021, mexicain. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
Oui, et alors malheureusement Juan Guzmán qui devait venir au dernier moment ne peut pas venir. On l'aura peut-être en lien vidéo ou sonore. Et il y aura en tout cas une de ses collaboratrices toulousaines qui s'appelle Anna Touati qui a fait les sous-titres du film et qui est sa collaboratrice régulière, donc elle pourra nous parler aussi de son travail. Alors, puisqu'on est dans une radio, ce film parle justement de l'auto-organisation de personnel, de personnes fragiles d'un point de vue psychologique et qui souffrent de maladies mentales, okay. Et qui se sont auto-organisées autour d'une radio qui s'appelle Radio Abierta, voilà, qui se définit elle-même comme faisant partie à l'échelle continentale des radios locas, des radios folles.
Ok, super. Bah, j'imagine que Canal Sud fait un peu partie des radios locas aussi ou pas? Bon, non, alors peut-être pas dans ce sens-là. Après, ça me fait penser ce que tu dis à une émission toulousaine qui s'appelle L'Émission, qui justement traite de ces problématiques de santé mentale à travers la radio. Voilà, j'en dirai un petit peu plus dans un autre magazine quand j'aurai préparé ce que j'aurai à dire. On se retrouve juste après. Là, on va continuer pour cet agenda de la journée, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment, il y a un festival de théâtre qui s'appelle Festival Supernova, qui est initié par le théâtre Sorano, dans lequel on trouve voilà, des nouvelles compagnies, des jeunes compagnies. Et notamment, ce soir, il y a plusieurs spectacles dans différentes salles toulousaines. Il y a une pièce qui s'appelle « Strip au risque d'aimer ça » par la compagnie Libre Cours. Il s'agit d'une performance théâtrale qui se jouera... qui se jouera où? C'est une bonne question, ça vous laisse le loisir d'aller chercher les informations sur internet. En tout cas, quelle est l'histoire? Il y a 5 ans, il me manquait quelques heures pour avoir mon statut d'intermittente. Alors, je me suis mise à chercher de la figuration ou des petits rôles en répondant à quelques annonces de casting. La direction d'un théâtre m'a alors téléphoné. Elle cherchait des comédiennes et des danseuses. C'est ainsi que, du jour au lendemain, je suis devenue stripteaseuse. C'est donc une pièce de théâtre qui aborde cette expérience de stripteaseuse et donc c'est dans un lieu inconnu à vous de chercher sur les internets. Il y a aussi à l'espace Roguet, toujours dans ce festival Supernova, un spectacle qui s'appelle Fragile. Il s'agit d'une libre interprétation théâtrale du mythe du sacrifice d'Isaac et qui s'appelle donc Pater. C'est une tragédie contemporaine entre deux frères qui essayent de s'affranchir de leur héritage paternel et qui traitent de façon burlesque de notre rapport ambigu à l'autorité. Ça se passe à l'espace Roguet, dans le quartier de Saint-Cyprien, ce soir, jeudi, à 18h30, ainsi que demain, à 17h30. C'est gratuit sur réservation. Et toujours dans ce... Et après, j'en aurais terminé pour le théâtre, mais je voulais insister là-dessus, puisque j'en ai déjà parlé cette semaine dans l'agenda. Il y a une pièce qui s'appelle « 9 mouvements pour une cavale » par Guillaume Caillé, Aurélia Luchère et la compagnie Le Désordre des Choses, qui aborde, en fait, qui parle d'une histoire qui s'est réellement passée. Un éleveur de Saône-et-Loire qui a été abattu par un gendarme après 9 jours de cavale, d'avoir pris la fuite et refusé de tuer une partie de son cheptel suite à un contrôle sanitaire. Il se trouve que cette pièce, elle fait suite à un docu-fiction sonore que, du coup, on diffusera dans ce magazine à partir de 13h. Ça vaut vraiment le coup, donc restez connectés à Canal ou allez voir ce spectacle. Ça se jouera donc au théâtre Jules Julien demain vendredi et samedi. Prochain à partir de 19h si je ne me trompe pas. En tout cas, si vous avez des questions, vous trouverez toutes les informations sur le site du théâtre Sorano et sur la page du festival Supernova.
Que siente eufórica, antes que histérica histórica, de tanto encanto pictórica, de tan gustosa, rica, tan quimérica, fabrica hormona, calienta, lubrica, hasta los maricas, hechiza, satírica, a veces le da besos a Dios por unos pesos a vos, gracias por ser como sos, y te va, la salida te indica, irónica, es una estética con, poética con, la base que suena y cinética y simpatiza con el tipo de tu lírica, pero a vos ni te ubica, te desubica, sube acá y sube acá, wow, hacia adivinanza gitana, no tiene un método, lo hace con quiromántica, no tiene un título, tiene lencería erótica, se pone romántica un poco, afónica un poco, histriónica, te enferma, de forma crónica, primero te da forma, después te deforma, de tanto que sabe te informa, con pocas normas, piensa en la reforma, Transformers, se transforma, y con el ritmo cambia la forma, forma la fila y aniquila, te forma atea, gracias a Dios es atea, gracias a Dios, de tan histérica histórica, antes que histérica histórica, de tanto que siente eufórica, antes que histérica histórica, de tan histérica histórica, de tan histérica histórica, antes que histérica histórica, de tanto que siente eufórica, antes que histérica histórica, de tan histérica histórica, sin bikini con química, te lo dice. Con química, te lo dice con mímica, cero mística, pura física de este lado, para que me miren y no me toquen desde este punto, para que se acerquen, pero no sofoquen de arriba o abajo, para que me enfoquen, para que empiecen a probar que me provoquen y le invoquen y no me toquen, se siente el espíritu, invoquen, móvete ken, no sumen, no resten, signifiquen, multipliquen, morite ken, somos adultos pero hay versiones muy muy bichiquen, oh, es cuestión de tu gen, gente que te aplaude por aplaudir público, bobo como mono, no sabe a quién seguir, no sabe a quién elegir, no hay candidato ni candidata, son todas ratas, mentira las encuestas, por eso yo, 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 y voy, y voy, y voy, el voto anulo, me postulo, voy a ser presidenta, el petróleo no será para la venta, el gas es nuestro para la gente violenta, cuando sea presidenta, Argentina se reinventa. De tan histérica histórica, antes que histérica histórica, de tanto que siente eufórica, antes que histérica histórica, de tan histérica histórica, de tan histérica histórica, antes que histérica histórica, de tanto que siente eufórica, antes que histérica histórica, de tan histérica histórica.
Voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer.
Ça a commencé hier, mercredi 17 novembre, avec une soirée consacrée à la santé communautaire et révolutionnaire au Guatemala et au Honduras. Et ça se poursuivra jusqu'à lundi prochain. C'est le festival Latinodoc, donc comme je le disais, festival de films documentaires sur l'actualité sociale et politique d'Amérique latine et des Caraïbes, qui se tiendra donc à Toulouse, dans plusieurs lieux culturels, associatifs. Avec donc plusieurs journées un petit peu thématiques, et c'est ce dont on va discuter avec justement Bernard et Lolita, qui sont avec nous dans les studios pour nous parler un petit peu de ce festival et de sa programmation. Déjà peut-être, est-ce que vous pourriez présenter un petit peu le festival? Je crois que il a été créé en 2009, si je ne me trompe pas, à l'initiative de deux associations qui sont France-Amérique latine et France-Cuba.
Oui, c'est ça. Ouais. C'est donc la 13e édition du festival Latinodoc, qui est un festival de soutien aux luttes des peuples, avec une dimension féministe affirmée, anti-impérialiste et contre les régimes plus ou moins dictatoriaux de l'Amérique latine qui se réclament du libéralisme autoritaire. Et notre originalité, d'un point de vue cinématographique, c'est que nous ne diffusons que des films documentaires.
Avec toute la diversité que recouvre le documentaire, parce que là, il peut y avoir aussi peut-être des docu-fictions ou non, ou c'est vraiment...
Non, là, ce sont vraiment des documentaires, d'accord. Mais il y a des films comme le film Epicentro sur Cuba, d'Hubert Sauber, qui inclut dans certaines de ses séquences de fausses fictions pour démonter et pour analyser le pouvoir du cinéma, le pouvoir y compris politique du cinéma, les trucages, y compris historiques, par rapport à l'histoire de Cuba. Voilà un exemple où fiction et documentaire se mêlent, mais démontés du point de vue documentaire, du point de vue de la véracité de ce qui doit être montré et entendu.
Ok, du coup, on l'aura compris, c'est un festival qui met un peu le politique au centre. Et d'ailleurs, cette année, cette 13e édition s'intitule « Auto-organisation, autogestion, autonomie ». Du coup, quand on lit un petit peu la présentation du festival, vous parlez notamment de ce contexte de pandémie et de désengagement des États, voire même justement, là, t'en parlais de l'autoritarisme, en fait, des États dans la région, de la manière dont les peuples ont justement dû faire face à cette politique capitaliste et mettre en place de nouveaux outils. Comment est-ce que c'est arrivé sur la table ce choix de thème, ou en tout cas qu'est-ce que... Ouais.
C'est arrivé parce que l'année dernière, on avait préparé, mais on n'a pu le faire qu'en ligne, un festival dont le thème était Colonial Virus. Et on a pensé qu'on n'avait pas à reprendre exactement le même thème, même si la pandémie fait des ravages, en particulier dans les pays d'Amérique latine, on pourra y revenir, mais la prolonger parce que face à la pandémie, il y a eu des tentatives d'auto-organisation, souvent réussies, d'appels mondiaux, de peuples qui se sont soulevés contre les politiques qu'ils subissaient, hein, surtout les peuples indigènes ou autochtones, on met des guillemets, ils s'appellent eux-mêmes comme ça. Et c'est pour ça qu'on a choisi ces trois volets. Ils sont synthétisés dans l'expérience zapatiste. Et Lolita, tu peux continuer sur ce thème-là si tu le souhaites.
Et oui, parce qu'en fait, cette année, c'est une année particulière. Depuis justement la création de l'exercice, enfin, de l'EZLN, l'Armée Zapatiste de Libération Nationale, en 1994, pour la première fois, les zapatistes en fait arrivent en Europe pour une déconquête de l'Amérique et pour conquérir l'Europe solidaire. C'est-à-dire qu'ils font l'inverse, dans un sens, de ce qui s'est fait il y a 500 ans avec la conquête des Amériques. Ils viennent justement en fait à la rencontre de toute cette Europe solidaire qui, depuis leur création, en fait, est allée justement au Mexique, au Chiapas, dans le sud du Mexique, les voir. Et là, c'est un événement assez historique, et je pense qu'avec le festival Latinodoc, on est particulièrement sensible à l'autonomie zapatiste. D'ailleurs, il y a une soirée qui est dédiée à ça. Et on devait mettre l'accent là-dessus parce que c'est, voilà, l'événement historique, c'est quelque chose qui nous touche particulièrement. Et le travail des apatistes, leur autonomie, leur façon auto-organisée et auto-gérée en dehors de l'État mexicain au sein des peuples indigènes est pour nous un symbole en fait, de lutte primordiale.
Oui, parce que justement, peut-être que ça traverse un petit peu le festival, mais quand on parle d'autogestion, d'organisation, moi, la question que je me posais un petit peu large, c'est... On peut se demander à quoi ça renvoie à Toulouse, en France et en Europe, mais j'imagine que ça résonne autrement en Amérique latine et notamment au Chiapas, parce que c'est une lutte qui est anticapitaliste, mais aussi décoloniale.
C'est ça. Mais oui, je pense que cette pensée décoloniale est... Comment ?
Et féministe.
Et féministe. Oui, oui, cette pensée décoloniale, elle est très, très présente. Le côté féministe dans Latinodoc, c'est assez particulier parce que il y a donc effectivement le collectif Latinodoc qui d'ailleurs fonctionne de manière autogérée, en autonomie, etc. Même s'il est rattaché d'une manière ou d'une autre à certains collectifs comme FAL, France-Amérique Latine, comme tu l'as dit, ou France-Cuba. Et dans Latinodoc, on a un collectif féministe qui est lui aussi autonome, en fait, qui prépare sa propre soirée, qui traditionnellement, c'est donc le lundi, la fermeture, la clôture du festival. Et effectivement, voilà, c'est vraiment un collectif qui est à part, constitué uniquement par des femmes, qui va justement travailler sur la programmation, l'autogestion de cette soirée-là, la façon dont ça va se dérouler, le programme. En fait, elles ont, voilà, libre à elles, effectivement, de gérer tout ça. Et c'est très important pour nous d'avoir une soirée féministe vraiment pour ça. D'autant plus que les luttes féministes en Amérique latine, on l'a vu ces dernières années, sont très, très fortes.
Et du coup, comme j'en profite puisque t'en parles, donc cette soirée féministe, elle aura... Donc on commence par la fin, c'est super.
Ouais, bah pourquoi pas.
Elle aura lieu lundi, donc prochain, lundi 22 novembre, à partir de 18h30, au lieu associatif La Chapelle, au 36 rue Daniel Casanova. Donc il y aura un petit temps convivial, bar et repas, et à 19h30, la projection d'un film qui s'appelle Negra de Medine Tewode Serrano. Bon, j'ai parlé un petit peu vite pour qu'on n'entende pas que j'écorchais, alors que c'est sûrement le cas. Un film de 2020, un film mexicain qui questionne qu'est-ce qu'être noir dans une perspective intersectionnelle. La réalisatrice dresse le portrait de 5 femmes racisées dans le sud-est mexicain. Les protagonistes, dans une volonté d'empowerment, partagent leur stratégie d'autodéfense et de résistance face aux stéréotypes et à la violence. De manière très subtile, ce film expose la construction du racisme et en dénonce les conséquences. Et ce sera suivi par une intervention musicale de Manola Araneda. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu ? Tu connais ce groupe ?
Alors, c'est une chanteuse, effectivement, qui est chilienne. Voilà, c'est pas, on va dire, pas un groupe en soi. Elle est chanteuse et compositrice. Elle vient de Concepción au Chili, donc dans le sud du Chili. Et voilà, elle a un répertoire qui est très marqué par le folklore latino-américain. Moi, je me rappelle, je l'ai vu il n'y a pas longtemps jouer, donc c'est facile. Et voilà, je l'ai vu autant faire des cuecas qu'en même temps, voilà, des cumbias colombiennes plus traditionnelles. Un répertoire, voilà, très proche de Violeta Parra, par exemple, qui est vraiment une femme qui a marqué, en tout cas, le Chili, et plus particulièrement la nouvelle chanson chilienne et toute cette vague des années 70. Et voilà, elle fait partie, voilà, de ce qu'on dit des mouvements des cantaoras, quelque chose qui, voilà, des chansons, des chanteuses qui ont quelque chose à dire et qui mettent en avant justement ce quelque chose tout en, avec de la poésie et beaucoup de finesse. C'est très beau.
On l'écoute tout de suite.
Quise desdibujarme, a veces deshabitarme, y amanecer cantando en otro sitio, interrumpir la cadencia de este reloj cansado, de siglos caminando al mismo paso, atravesar las aguas del placer sustentado en hipócritas morales en pecados y llegar a la orilla, papi.
Et on écoutait Manola Araneda qui jouera dans le cadre de la soirée féministe organisée par Latinodoc à La Chapelle lundi 22, lundi prochain. Alors justement, je voulais revenir un petit peu sur la manière dont les documentaires à l'affiche là, pour cette édition vont retracer, suivre, documenter les luttes actuelles dans différents pays d'Amérique latine. Et notamment, je voulais te poser la question, Bernard, sur cette journée du samedi à La Chapelle où sera projeté à 17h un film qui s'appelle La Gran Juntasa, qui est un film colombien qui sera suivi d'une discussion avec le collectif Colombien à Toulouse. C'est un film qui, dis-moi si je me trompe, du coup, suit un mouvement social qui a eu lieu cette année même en Colombie. Est-ce que tu peux nous en dire plus, nous raconter ? Alors moi, personnellement, je n'ai pas suivi ce qui s'est passé en Colombie cette année et j'aimerais bien peut-être avoir des billes que tu... avant peut-être d'aller le voir samedi.
Alors, ce qui se passe en Colombie, c'est ce qu'ils appellent, et ce qu'elles appellent eux-mêmes et elles-mêmes, le paro, un nouveau paro, c'est-à-dire un blocage. Il y en a eu dans l'histoire du mouvement social en Colombie, il y en a eu plusieurs. Et celui-là a commencé en mai 2021, lors du deuxième pic de la pandémie, moment où des milliers de Colombiens et Colombiennes ont manifesté dans les rues des villes et des villages, dans les campagnes aussi, contre la politique néolibérale du gouvernement et la répression violente que chaque manifestation subissait.
Et tu ça a posais... pris la forme d'une grève générale, en fait.
Voilà, alors c'est le film La Gran Juntanza, ça montre comment la résistance prend la forme d'assemblées territoriales larges, démocratiques, coordonnées au niveau national. Elles ont élaboré, hein, ces assemblées territoriales, ont élaboré une plateforme nationale rassemblant les revendications de tous les secteurs sociaux. Les luttes des femmes contre le féminicide, les respects des accords de paix, les revendications du droit à la terre et à un travail digne, la défense de la nature dans une perspective éco-socialiste. On voit donc la globalité à la fois des revendications, la globalité du soulèvement du peuple et de son auto-organisation, et la Gran Juntanza, ça va montrer hein, dans le documentaire des liens et des interviews et des manifestations dans plusieurs région de la Colombie.
D'accord.
C'est la Juntanza, ça veut dire la rencontre, la globalisation en quelque sorte. Et on voit bien comment on est au centre de la problématique du festival. Et il y a plusieurs films, dont celui-ci, qui sont inédits, qui viennent à peine juste d'être finis. Et donc on est très content aussi de pouvoir ouvrir le festival à des événements contemporains du festival, à quelques semaines ou à quelques mois près.
Peut-être ce que moi je voudrais dire, c'est que la particularité de cette mobilisation qui est en Colombie, alors pour un petit détail peut-être un peu moins joyeux, c'est que jusqu'à présent, il y avait beaucoup de répression qui se faisait à la campagne, en fait, par rapport justement à tout ce conflit armé entre la guérilla, les FARC, les paramilitaires, le gouvernement, etc. Et que là, pour la première fois, on a pu voir que la répression, en fait, s'abattait également en ville, en fait. Pas dans des endroits isolés, sinon, en fait, dans des endroits où, justement, il y avait des rassemblements. Okay. Et ça, c'est assez particulier en Colombie. Moi, j'ai des amis colombiens qui, justement, m'expliquaient que peut-être que ce conflit armé, en fait, en tout cas, parce que... même si en soi ce n'est pas le conflit armé, mais l'état de guerre permanent qu'il y a en Colombie en fait depuis le début des conflits armés, parce que c'est ça en fait, on est dans un état de guerre permanent en Colombie, un des pays en Amérique latine où ça ne s'est jamais vraiment arrêté, en fait se ressent de plus en plus en ville. Et le fait que des personnes en fait d'un contexte urbain ou rural, mais en tout cas se retrouvent aussi, c'est quelque chose qui ne s'était pas fait jusqu'avant. Et voilà, pour reprendre ce que disait Bernard, c'est une union en tout cas qui se fait, et une convergence qui se fait qui ne s'était pas encore vraiment faite jusque-là, avec un isolement des populations en fait, voilà, dans certaines régions comme le Cauca, comme d'autres endroits où très isolés du reste.
Et ce paro résiste à la répression qui est violente, je l'ai signalé. Résiste, c'est aussi un signe de radicalité et de force.
Et du coup, dans le documentaire, les réalisateurs, le réalisateur, il a suivi des assemblées générales. Qu'est-ce que ça raconte en fait du coup?
Non, il a filmé directement les points névralgiques en quelque sorte du paro colombien, en interviewant les gens, en les regardant vivre, en les regardant s'alimenter, s'auto-organiser sur tous les domaines de la vie quotidienne, en restant bloqué et en bloquant le pays.
Et aujourd'hui, ça en est où cette lutte-là? Est-ce que vous avez des...
Elle continue sur le même modèle, avec l'affirmation répétée de revendications. Et cette forme d'assemblée territoriale, comme tu évoquais tout à l'heure la question de comment ça peut parler aux Européens et aux Français, mais quand le mouvement des Gilets jaunes a basculé à gauche, c'est exactement comme ça que la structuration s'est continuée. Au début, ça a hésité, puis il y a eu le maintien d'assemblées, le blocage des carrefours, le déferlement des manifestations dans les villes aussi, et puis une structuration nationale, etc. On voit comment les formes d'auto-organisation, je ne banalise pas, elles sont toutes dans un contexte politique-social précis, mais que malgré tout, ce sont des hommes et des femmes qui s'auto-organisent, et il n'y a pas 36 façons de s'auto-organiser et de poser le problème d'un rapport de force. Et en particulier en Colombie, avec le non-respect des accords de paix, avec l'intervention de paramilitaires, en plus des militaires directement ou des forces de police, des paramilitaires, qui sont quelquefois payés avec ce qu'on appelle des falsos positives, c'est-à-dire que s'ils abattent des gens en disant que ce sont d'anciens guérilleros, ils touchent de l'argent. On avait projeté, il y a 2 ou 3 ans, dans Latinodoc, un film qui s'appelle justement sur ce thème-là, le faux positif.
C'est assez intéressant parce que la Colombie, en fait, moi je trouve qu'en Amérique latine, il y a énormément de documents, de documentaires qui se fait. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mémoires audiovisuelles qui se fait. Ce conflit armé là, qui dure depuis des dizaines et des dizaines d'années, il est extrêmement documenté. Il y a une richesse cinématographique en Colombie qui est pas des moindres. D'ailleurs, avec le festival, il y a une semaine ou deux, on a participé à un partenariat d'un film Ex Ojo. Moi, j'étais effectivement à l'Utopia à Tournefeuille sur justement la reconstruction faciale en fait des victimes du conflit armé. Okay. C'était très intéressant et on peut voir justement dans toute cette richesse la continuité de ce conflit armé qui depuis des années, depuis je crois le début de Latinodoc, on s'attache en tout cas, on aime en fait y mettre ces nouveaux documentaires pour voir l'évolution en fait de ce conflit armé.
Avec un cinéaste très important dont on parle trop peu, qui s'appelle Nicolas Rincón Gil.
Très très bon cinéaste.
Et je conseille aux auditeurs et aux auditrices de se connecter pour trouver des films de Nicolas Rincón Gil. Ça vaut vraiment la peine.
D'accord, le message est passé. Du coup, on parle de cette lutte en Colombie. Si on revient vers le Mexique et le Chiapas surtout que tu évoquais en début d'émission, il y a une journée consacrée aux luttes autonomes zapatistes. Ce sera dimanche 21 à La Chapelle. Avec la projection à 16h d'un film d'Apolline Hanor qui s'appelle « Ni le centre, ni la périphérie », suivi d'une discussion avec la réalisatrice. Donc pareil, est-ce que vous voulez... Parce qu'en fait, il y a beaucoup de documentation pareil sur les luttes au Chiapas, j'ai l'impression. Ouais. Et puis en fait, moi, j'ai pas vraiment trop suivi... je me pose une question... notamment par rapport au voyage pour la vie des zapatistes dans plusieurs lieux en France, c'est cette médiatisation, j'ai l'impression qu'elle est vraiment... moi, ça m'a questionné en fait la place de la médiatisation dans ce projet-là. Alors, je ne sais pas si ça venait des organisations accueillantes ou des zapatistes eux-mêmes, mais il y avait une dimension de mise en scène et de récit de ce voyage... qui était quand même très particulière, quoi.
Alors, sur la médiatisation zapatiste, je dirais 2 choses. La première, c'est que, pas pour parler de la France, mais peut-être pour parler un peu plus historiquement parlant de ça, les zapatistes, quand ils ont commencé à mettre des passe-montagnes, des cagoules, en fait, ils l'ont fait, pour la petite anecdote, pour qu'on puisse les entendre, parce que de cette manière-là, on les entendrait parce qu'on les verrait. En fait, donc cette médiatisation au sein de la lutte zapatiste, en tout cas historiquement parlant, elle est quand même relativement importante de façon à ce que la voix des zapatistes puisse porter en fait et que leurs revendications soient écoutées.
Du coup, mettre une cagoule, c'est à la fois un message dans le rejet de la personnalisation de la lutte, c'est ça, mais aussi du coup de référence. Enfin, en tout cas, je sais qu'en France, il y a une référence à un univers guerrier aussi qui est. Mais peut-être que je sais pas.
Alors, il y a de ça effectivement, mais ils le disent, ils et elles le disent eux-mêmes que si ces cagoules n'avaient pas été mis, personne ne les aurait jamais écoutées, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, aller au choc visuel, en fait, permet le fait d'être entendu. En tout cas, en 94, c'était comme ça. Il y a eu beaucoup de choses là-dedans, et voilà. Après, aujourd'hui, alors, je vois pas trop un peu cette particularité, mais moi, je trouve ça effectivement important que, pour moi, c'est en tout cas vraiment très personnel, hein, ce que je dis, c'est pour moi quelque chose de très historique, le fait qu'ils viennent. Ils viennent. Pour les avoir rencontrés, c'est vrai que Yel ne veut pas se mettre en scène de cette manière-là, d'être d'un côté supérieur à vouloir donner en fait des instructions ou devoir donner, voilà, prêcher la bonne parole. En tout cas, les échanges que moi j'ai vécu avec Yel, c'était vraiment quelque chose de partagé, un vrai partage. C'est-à-dire pas juste des personnes sur une estrade et d'autres personnes qui posent des questions, sinon vraiment un partage. Votre lutte, elle est comment ici, en tout cas dans les collectifs militants, elle est comme ça chez nous. Voilà, quels sont les points communs, quelles sont les différences, comment on pourrait s'aider mutuellement par rapport à tout ça. Et moi, je l'avais vraiment vécu comme ça à chaque fois. Mmh. Et à chaque fois qu'il y avait cette position de scène avec spectateurs, ils essaieraient vraiment de rompre ça, en fait, pour être vraiment dans quelque chose. Voilà, on est comme vous, en fait, finalement, nous sommes des humains. Et on parle d'humain à humain, en tout cas.
Mais enfin, c'était pas une critique. Oui, bien sûr. Je remettais pas en question forcément. Enfin, le projet de ce voyage et de cette rencontre là. Mais j'en profitais parce que comme vous êtes un festival de documentaires sur ces luttes, mmh. ça pose aussi la question de la place qu'on accorde à la caméra. Ici, à la radio, on défend aussi le fait de médiatiser. Enfin, c'est un média, du coup. Mais ça a questionné tant les échos de ce voyage dans les milieux militants ont laissé une grande place, en tout cas du point de vue, je pense, des collectifs français, à cette question de l'image, de la médiatisation, notamment lors de leur passage à Notre-Dame-des-Landes cet été, où la caméra était assez omniprésente. Et du coup, ça questionne sur la place de la caméra dans nos luttes. C'est un outil de transmission, ça permet de rendre des luttes visibles, mais dans le monde dans lequel... dans le monde dans lequel on vit, dans lequel justement l'image et la vidéo ont pris cette place-là, ça questionne quand même sur cette place-là. Ouais. Je ne sais pas si vous, en tant que collectif de films docu sur les luttes, ça, vous avez déjà été questionné là-dessus.
Oui, il y a eu des débats aussi sur cet aspect-là. Le problème, c'est que ça renvoie à la déontologie du réalisateur ou de la réalisatrice. Quelle place je me donne dans ce que je filme? Je me mets en retrait? Je me mets en avant? Qu'est-ce que je filme? Qu'est-ce que je monte? Qu'est-ce que je coupe? Quels sont les plans que je fais? Est-ce que je fais un film sur le cinéma ou un film sur la réalité, la véracité de ce que je filme, sur les gens, sur les combats, sur les luttes? On va retrouver sans arrêt ce débat dans le festival. Je ne sais pas si les questions seront posées de la façon dont tu les poses. En tout cas, elles sont très pertinentes et très intéressantes. Le film sur Cuba qu'on va passer vendredi pose explicitement ces questions.
Alors justement, est-ce que tu pourrais présenter... Alors on passe vraiment du coq à l'âne, on reviendra sur... avec les apatistes, mais si je retrouve mes notes, c'est cette soirée du vendredi 19, soirée France-Cuba, avec la projection à 18h30, toujours à la chapelle, du film du père Sauper, Epicentro, que tu as commencé un petit peu à décrire, puisque alors j'ai pas très bien compris, c'est, il y a des éléments de fiction qui interviennent et un jeu avec cette image, parce qu'en fait il y a une histoire du cinéma qui est vraiment incroyable pour le coup à Cuba, et donc ce film il parle de cette histoire aussi là.
C'est un film qui est autant sur l'histoire du cinéma que sur l'histoire de Cuba, et ça renvoie au titre Epicentro, l'épicentre, hein. Et pour moi, ce film évoque deux séismes qui ont bouleversé l'île de Cuba. C'est en 1898 l'explosion dans le rade de la Havane du cuirassé nord-américain, l'USS Maine. Les États-Unis, Roosevelt, ont monté tout de suite une reconstitution que le film montre dans une baignoire de cette explosion qui n'avait été filmée par personne, en expliquant dont le trucage et le faux. On revient un peu à ta question sur qu'est-ce qu'on montre au cinéma et qui le montre et pourquoi on le montre. L'explosion, donc, qui n'a été revendiquée par personne, et les États-Unis ont dit ce sont les Espagnols qui occupaient Cuba à l'époque qui nous ont attaqués. Du coup, guerre. Et c'est à partir de là que l'impérialisme américain s'est implanté à Cuba, a chassé les Espagnols et s'est implanté à Cuba. Le deuxième séisme, eh bien, tout le monde le connaît, hein, puisqu'on vit encore sur ces suites complexes, difficiles, y compris pour les Cubains. C'est la révolution, Fidel Castro, le Che, etc. C'est le second séisme, en quelque sorte, qui a bouleversé, qui est devenu un nouveau centre, puisque l'épicentre, c'est le séisme est en profondeur, et c'est ce qu'on voit à la surface, voilà, qui bouge de ce point de vue-là. Et la théorie du Bersoper, c'est de dire que 98, c'est 3 ans après l'invention du cinéma, que l'impérialisme américain non seulement a occupé l'île de Cuba, mais qu'il a utilisé le cinéma comme une idéologie, un moyen de propagande, un cinéma au service de l'impérialisme, en truquant. Et il va plus loin, parce que le développement du cinéma hollywoodien, c'est un peu une vision impérialiste du cinéma mondial, répandue dans le monde entier. Voilà.
On fait une petite pause musicale et on revient juste après pour justement discuter plus en détail de la place des luttes anti-impérialistes justement dans ce festival.
Se acabó, la paciencia se acabó, ya se me acabó, patrón. Explotaste a mis abuelos, a mis padres y ahora a mí. Pero ya se acabó, te juro que se acabó, la paciencia se acabó. Por la buena o por la mala, por la mala o por la buena, por la buena o por la mala, por la mala o por la buena, por la buena o por la mala. Tomaremos el poder y usted dejará el poder burgués, que sí, tomaremos el poder. Y que viva el mar, y que viva el mar,
¡viva!
Y que viva el mar. Que viva el mar,
¡viva!
Y los lacandones, y los lacandones, y los lacandones, y los lacandones. Vivan las Fuerzas Armadas de Liberación, vivan las Fuerzas Armadas de Liberación. ¡Ja! Ahí viene la fuerza del pueblo. Cuidado, cuidadito. Se acabó, muchacho, ya se acabó, la paciencia se acabó. Cuando este gobierno caiga, al coro hemos de cantar. De la feroz dictadura, mira tú lo que quedó. Pero ya se acabó, muchacho, ya se acabó. Se acabó. Lo juro que se acabó. Por la buena o por la mala, por la mala o por la buena, por la buena o por la mala, por la mala, por la buena, por la buena, por la mala. Tomaremos el poder, que sí, tomaremos el poder y usted dejará el poder burgués. Y que viva el FRAP, y que viva el FRAP,
¡viva!
Que vivan las FARC, que vivan las FARC,
¡viva!
partido de los pobres, y el partido de los pobres, y el partido de los pobres, y el partido de los pobres. Vivan las Fuerzas Armadas de Liberación, vivan las Fuerzas Armadas de Liberación. Se acabó, se acabó, muchacho, ya se acabó. Se acabó,
se acabó,
se acabó,
se acabó,
la guaracha se acabó. Si no te gustó, ni modo, esto no les gusta a todos. Si no te gustó, ni modo, esto no les gusta a todos. Pero ya se acabó, muchacho, ya se acabó. Se acabó,
se acabó,
se acabó,
se acabó,
la guaracha se acabó.
Midi, passé de 44 minutes sur Canal Sud 92.2. On écoutait C'est à Cabo, l'hymne révolutionnaire, un des hymnes peut-être révolutionnaires zapatistes. On est en compagnie de Lolita et Bernard de Latino Doc pour cette semaine consacrée aux luttes sociales politiques d'Amérique latine et Caraïbes qui se tiendra donc dans plusieurs lieux. À Toulouse jusqu'au lundi 22 novembre. On a parlé de différentes choses dans le désordre. C'était vraiment notre constante. On était constamment dans le désordre. Mais j'espère que que vous avez réussi à faire le tri un petit peu dans peut-être des idées de ce que vous avez envie d'aller voir. On va revenir sur cette journée de dimanche consacrée aux luttes zapatistes. Et sur ce film, qu'au final on a juste évoqué, ni le centre ni la périphérie, à 16h, est-ce que tu veux nous dire quelques mots sur ce film, Bernard ?
Oui, c'est donc le film d'Apollinaire. Apollinaire sera là. C'est un film qui est à la fois très politique et très personnel, ce qui montre que l'enracinement politique, il peut être dans la vie des gens, dans la biographie des gens. Et elle commence comme ça, en parlant de son enfance, en parlant de la façon dont elle a connu la révolte zapatiste très tôt, et elle montre comment son histoire personnelle va croiser une espèce de conte que racontent les zapatistes, et elle va donc dériver par ce biais-là à faire un documentaire sur les femmes zapatistes.
Okay.
Ça devient un documentaire féministe qui met en scène beaucoup plus que d'autres, où on voit surtout des hommes, les femmes zapatistes, auto-organisées, elles aussi, en train de participer aux luttes, de théoriser les luttes, de pas simplement être des exécutantes. Et c'est ce qui fait la force de ce documentaire. Et nous avons invité la Zapateria toulousaine, qui a répondu favorablement. Donc, elle et ils seront là.
Peux les présenter un petit peu de qui sont, qu'est-ce que c'est en fait la Zapateria?
La Zapateria toulousaine, c'est un groupe large de soutien et de défense du mouvement zapatiste qui a co-organisé la venue à Toulouse depuis le début de l'été des différentes délégations et qui continue. La dernière fois, c'était dans la dernière semaine du mois d'octobre où ils ont accompagné les représentants du Conseil national indigène du Mexique, qui est la globalisation des peuples en lutte au Mexique, dans toute la région. Donc c'est une sorte d'organisation qui a un travail continu, régulier, d'accompagnement des conquêtes de l'Amérique, diverses et variées, en provenance du Mexique.
Alors justement, je voulais rebondir, puisqu'on l'évoquait avant l'émission, sur ce Conseil national indigène, c'est ça ?
Oui, Conseil national indigène.
Qui a lancé un appel.
Oui.
Qui a été suivi jusqu'au Brésil dans des luttes indigènes. Est-ce que tu veux nous dire quelques mots là-dessus, puisque c'est peut-être assez important en termes d'appel à des luttes décoloniales du Brésil au Mexique. On est quand même en train de parler de pas du tout du même contexte politique. Du coup, ça questionne quoi.
Alors, le Conseil national indigène, qui s'est doté d'un autre sorte d'autogouvernement, existe depuis 25 ans, mais il a repris sous l'influence zapatiste une actualité, une activité beaucoup plus forte, évidemment. On sait bien que ces luttes-là ne sont pas permanentes, il y a des hauts et des bas.
L'histoire n'est pas linéaire.
Dans leur niveau, l'histoire n'est pas linéaire, très bien. Et par exemple, je lis un extrait de leur appel, assez court. Aujourd'hui, à 25 années de distance, nous convoquons toutes celles et ceux qui, dans le collectif et l'individuel, font partie du CNI ou ont accompagné, même en qualité d'observateur, observatrice, son passage dans ce quart de siècle, à une réflexion collective profonde au travers de réunions, forums, conférences et activités de toutes sortes qui se réaliseront à partir de ce 12 octobre jusqu'au 12 octobre de l'année 2022, se terminant par une grande assemblée. Cette réflexion collective profonde cherchera à répondre à la question. Et ensuite, donc on retrouve les mêmes caractéristiques de l'auto-organisation que celles dont on parlait tout à l'heure. Et ça fait écho, en effet, tu l'as rappelé, à ce que je disais, c'est-à-dire un appel des peuples de l'Amazonie avec cette phrase, c'est... appel lancé en juillet 2021 et qui disait « Sans une Amazonie vivante, il n'y aura pas d'avenir pour l'humanité ».
Moi, je voudrais peut-être revenir sur ce que tu disais, que ce n'était pas des contextes différents. En fait, je suis d'accord et pas d'accord avec ça. parce que déjà, pour plein de raisons, je pense que... Alors effectivement, on n'est pas... Voilà, Bolsonaro, ce n'est pas du tout le prix au Mexique. On n'est pas du tout dans un contexte politique qu'elle-même. Ce n'est pas du tout les mêmes endroits. Le continent est énorme. Néanmoins, je pense que quand même les oppressions, elles restent un peu les mêmes, en fait. Le néolibéralisme, d'une part, la répression aux indigènes, d'autre part aussi, c'est un peu, de toute façon, des choses qui reviennent. Et puis, pour justement le fait que les indigènes se retrouvent en Amérique latine, il y a autre chose qui se fait, ça, c'est quelque chose... Le panaméricanisme est un truc qui existe depuis longtemps. Et du côté indigène, les indigènes donnent un nom à l'Amérique latine autre que l'Amérique, qui est la Via Yala, qui est justement le nom qui est le plus ancien que l'Amérique donnée par le nom de Amerigo Vespucci. C'est le nom donné, en fait, justement à ce continent, le nom donné par les nations indigènes d'Amérique pour désigner cet endroit. Et de ce côté-là, justement, les peuples indigènes se sont réunis et se réunissent, en fait, autour de cette... De ce nom de territoire, de cette expression, pour justement mettre en commun leur lutte. Les apatistes ont fait beaucoup d'appels, en tout cas, que ce soit du côté par rapport aux femmes ou que ce soit par rapport aux indigènes, justement, à ce qu'il y ait en fait des rencontres qui se fassent au fil des années. Et c'est quelque chose qui existe quand même. Il y a une connexion quand même. On n'est pas non plus trop éloigné parce qu'il reste une connexion, une lutte pour les mêmes droits, les mêmes espérances, qui est quand même commune à tous les peuples indigènes, je crois.
Et justement, du coup, sur ce que tu parles, est-ce que c'est une problématique qui traverse le festival ou bien il y a certains films qui l'abordent plus que d'autres ?
Alors bien sûr, c'est une problématique qui traverse le festival. Déjà, je pense au niveau des personnes qui constituent ce festival, ce collectif. Dans les personnes qui constituent le collectif, il y a des personnes issues justement de populations indigènes aussi qui portent ça en elles. Et pour nous, c'est très important. Et puis, c'est d'autant plus important qu'on essaye au maximum de le retrouver dans les films parce que c'est une problématique qui se retourne en Amérique. On ne peut pas juste en fait, parler des problématiques liées aux personnes ou au contexte issu de quelque chose de plus économique, mais on est obligé de parler de la colonisation. La colonisation, c'est la première chose qui est arrivée, la décolonisation aussi, les luttes indigènes, la visibilisation de ces populations indigènes. Hier soir, par exemple, on l'a vu avec les films autour de la santé, avec justement le film sur le Guatemala. Ce film-là était entre autres en espagnol, mais aussi en maya quiché. Okay, donc on s'attache aussi à ce que ces langues-là aussi soient reconnues, ces peuples soient visibilisés. On aura aussi quelque chose sur un poète en Amazonie aussi plus tard.
Ouais, justement, je voulais en parler. Ouais. Parce que c'est un film qui s'appelle Un poète en Amazonie, qui a sûrement... C'est pas un film français, du coup le film est sûrement le titre, pas celui-ci à la base, je pense. Non. Qui sera diffusé samedi à 19h30. C'est un film de José Huerta, un film brésilien, suivi normalement d'une discussion avec le réalisateur. Que raconte ce film ?
Alors, le poète dont il est question s'appelle César. Il anime un café de la poésie à Rio Branco, en plein cœur de l'Amazonie. Depuis de nombreuses années, il défend la forêt amazonienne et ceux qui y vivent. Depuis l'arrivée au pouvoir de Bolsonaro, César assiste au démantèlement de l'État, de l'économie, des politiques sociales, à la destruction de la forêt amazonienne, à l'apologie de la violence et à une gestion génocidaire de la pandémie. On sait très bien que En effet, Bolsonaro est accusé de génocide puisqu'il a rien voulu faire au départ pour lutter contre le virus. Il a même dit que c'était une décision divine, appuyé sur les évangélistes, et en même temps, c'était l'immunité collective qui arrivera au bout d'un certain nombre de milliers de morts, et on en sortira sans passer par... Et il y a même des manifestations de femmes brésiliennes qui, justement, luttent, et des femmes du mouvement des sans-terres aussi, qui luttent pour avoir l'accès à la vaccination. Donc, il continue à tenir ce café de la poésie. Il est quand même très menacé aussi, y compris de mort. Et il permet à tous les exclus de cette nouvelle politique de se regrouper, et là aussi la juntanza en quelque sorte, même si ce n'est pas la même langue dans ce cas-là, et de pouvoir encore respirer dans un climat politique extrêmement pesant. Et il se fait l'écho lui aussi de l'appel des peuples de l'Amazonie dont je parlais dans mon intervention précédente.
Et donc ce film sera diffusé samedi prochain, 20 novembre 2021, à 19h30, à La Chapelle, au 36 rue Daniel Casanova. Il nous reste quelques minutes avant de nous quitter. Peut-être quelques mots sur la soirée de ce soir.
Ouais.
Tu voulais en parler un peu.
Je voulais en parler. Je voudrais juste rajouter vite fait quelque chose sur la soirée de dimanche, parce qu'en fait, dimanche, il y a autre chose qui va se faire, qui est la Oja Comunitaria. Donc, c'est la gamelle commune, on va dire, la casserole commune, si je dois... communautaire. Qui est, en fait, avec l'Ethnodoc, on ne veut pas juste parler de l'autogestion, de l'auto-organisation et tout ça, sinon la pratiquer. Et en fait, on invite justement à se rejoindre autour de ça, donc un repas qui va être fait collectivement pour une mise en pratique de l'autogestion. Petite... voilà.
Oui.
Et par rapport à la soirée de ce soir, effectivement, ce soir, on va être sur l'auto-organisation, l'autogestion par rapport à la santé mentale avec ce film. Moi, je vous conseille de venir le voir. Je pense que ça va être excellent. Derrame a ser parte de tu locura. Sur justement cette santé mentale qui peut-être aujourd'hui, on la pointe peut-être un peu plus du doigt par rapport aux conséquences de la pandémie. Quelque chose qui peut-être peut être un peu tabou dans nos sociétés. Et c'est, voilà, étant donné qu'on va parler de stations, de programmes de radio qui laissent la parole aux personnes, justement, qui ont des pathologies mentales et qu'on est à la radio aujourd'hui, je pense que c'est très pertinent, en tout cas, d'en parler. Entre autres, ce qu'on appelle les radios locas, les radios un peu folles, et avec cette fameuse expérience qui est assez connue de la radio Colifata, donc... La radio argentine, justement, qui a été, entre autres, voilà, visibilisée par Imir Kusturica, par Manu Chao ou Francis Ford Coppola. Un programme de radio qui a été mis en place en 91, si je ne m'abuse, par un psychologue à Buenos Aires, où justement les patients participent de manière autogérée, commentent aussi des matchs de foot, participent à la vie de la communauté, de l'autogestion. Voilà. C'est assez fabuleux comme expérience. En tout cas, moi, je conseille vivement, je sais que voilà, ce film est excellent, donc je conseille vivement de venir ce soir à l'ABC à partir de 20h30.
Merci.
Deux petits points, si tu me permets. Pour continuer ce que disait Lolita, le fondateur de la Colifata vit en France depuis quelques années. Il s'appelle Alfredo.
C'est la radio, justement,
c'est
de Buenos Aires.
C'est la radio folle, la radio... Foldeng, on pourrait traduire ça.
C'est du lumfardo, voilà. C'est du patois de la main.
Voilà. Et donc, Alfredo Oliveira vit maintenant en France et a créé en région parisienne une émergence de cette extraordinaire expérience de la Colifata qui s'appelle Radio sans nom, entre guillemets. Et je voulais aussi donner quelques slogans élaborés dans la radio abierta du Mexique par les membres de cette radio auto-organisée. Je donne trois exemples de slogans. Le premier, c'est « Seuls, nous sommes invisibles. Unis, nous sommes invincibles. »
Wow.
Même en traduit en français, le jeu de mots marche.
Fonctionne, ouais.
Deuxième élément, la santé mentale, c'est pas être équilibré, mais c'est savoir être fou.
Wow.
Et le dernier, qui fait référence à l'histoire, « Simon Bolivar rêvait d'unir toute l'Amérique latine. Ici, la folie fait sa révolution. » En rassemblant les peuples, les radios unies ne seront jamais vaincues.
Merci beaucoup. C'est ce soir à l'ABC à 20h30 et on va se quitter sur une musique de La Bruja dont tu fais partie, toi, Lolita. Ouais. Et il y a un concert samedi.
Ouais, je sais, là, je fais un peu concurrence à la Tinodoc.
Pas de problème.
On a un concert, effectivement, à l'Astronef samedi soir à partir de 21h. Sinon, vous pouvez nous voir aussi le 25 novembre à l'Espace Job dans le cadre de la journée contre les violences faites aux femmes. Le 2 décembre sur les ondes à la radio Escale Quilombo sur Radio Mon País et enfin le 11 décembre à la Maison Blanche.
Merci beaucoup à vous, à très vite pour le festival. Bonne journée à vous.
Merci beaucoup.
Merci.
Dímelo.